France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors il fallait absolument que je vous dise qu'aujourd'hui nous avons reçu un urgent, parce qu'en ce moment il y a une Coupe du Monde, vous êtes peut-être au courant, de football, mais il y a également une Coupe du Monde du croque-monsieur, et oui elle existe cette Coupe du Monde, et c'est à Strasbourg, il y a deux boulangers qui sont en train de se battre pour savoir qui va réaliser le plus grand croque-monsieur du monde, et le dernier vient d'arriver, il fait 30 mètres carrés, et là on a juste envie de poser une question, mais pourquoi ? Voilà, donc on ne sait pas, on attend juste un troisième croque-monsieur pour nous départager. Et eux, c'est le ventre garni d'actualité qu'ils se sont présentés. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Agathe Cagé, bonsoir.
Bonsoir.
De Compass Label, également Mathieu Aron, bonsoir.
Bonsoir.
De l'Obs, Jadza, bonsoir. Du Parlement des étudiants. Et Yannick Halimi, bonsoir. Du Parisien, aujourd'hui en France. Et ce soir, on parlera un peu de constitution, mais qui a une idée de Jean-Louis Borloo et le gratin. Mai 2018 en échec, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors en arrivant aujourd'hui à Bruxelles, certains dirigeants européens avaient dans les oreilles la chanson du groupe Europe Final Countdown, un compte à rebours final, pas tant pour la qualité musicale du morceau, mais parce qu'il est de circonstance vu l'ambiance actuelle dans les chancelleries. Un conseil européen sur deux jours, avec en point d'orgue la question migratoire, et Angela Merkel a trouvé un gentil mot hein, pour décrire l'ambiance du sommet, l'Europe y joue son destin. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, ça va être chouette. Avant même les discussions, Varsovie annonçait être opposée aux quotas de migrants. Et ils ne sont pas les seuls à réclamer le respect de leurs exigences. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte.
C'est un jour important. On espère que ces paroles vont se traduire par des actes. L'Italie n'a pas besoin d'engagements verbaux, mais de faits concrets. Un veto est une possibilité que je ne veux pas imaginer. Mais si on devait y arriver, de mon côté, nous n'aurons pas de conclusion partagée.
Alors, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Alors, Mathieu Aron, il y a beaucoup de mots tragiques, même funestes, qui ont été prononcés. Est-ce que vraiment, sur ce sommet, l'Union européenne est en danger ?
Ce qui est sûr, c'est que, à force de n'avoir... J'allais dire rien fait, c'est pas le cas. À force qu'un certain nombre de pays n'aient peut-être pas fait ce qu'ils auraient dû faire, et en premier chef la France, depuis des années et depuis des mois, on est arrivé dans une situation effectivement de crise. La situation elle est relativement simple en réalité. En 2015, 2016, 2017, 2,5 millions de personnes sont arrivées en Europe et ont demandé l'asile. 1,5 million l'ont obtenu. Un pays à lui seul, l'Allemagne, a donné 60% de ses autorisations d'asile. La France a donné moins de 6% de ses droits d'asile. Et qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, la Grèce s'est retrouvée sous l'affluence des migrants. Et puis, la situation a pu être réglée, en particulier parce que l'Allemagne a accueilli une grande part de ses migrants et puis que la voie avec la Turquie s'est fermée. Et puis après, il y a eu l'Italie qui a accueilli des migrants. Et la question que pose l'Italie, au-delà de ce qu'on peut penser du pouvoir en place,
bien sûr,
et on n'en pense pas forcément du bien, bien évidemment, mais la question que pose l'Italie, qui est de dire, il n'est pas normal que les accords européens obligent les pays qui sont en première zone, c'est-à-dire les pays qui accueillent les migrants, à devoir en réalité gérer cette situation un peu seule, cette question, elle est réelle.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle Dubliner. Hein,
cette question, Dubliner. Elle est réelle. La France, depuis des mois, renvoie des migrants en Italie en disant c'est votre problème.
Alors,
cette situation, elle ne peut pas totalement durer non plus. C'est toutes ces questions qui sont posées dans le sommet européen.
En effet, Agathe Cagé, on voit bien qu'il y a deux camps, hein, véritablement, qui sont en train de se créer en Europe. Mais en même temps, vous avez beaucoup de gouvernements populistes qui estiment qu'on leur fait la leçon, qu'après tout, ils ont été élus démocratiquement, donc ils n'ont qu'une leçon à recevoir. Eux, c'est ce qu'on dit, par exemple, le gouvernement italien, Emmanuel Macron. Il dit arrêtez de nous donner des leçons, on est aussi légitimes que vous. C'est compliqué. C'est là où c'est difficile à comprendre, parce que il y a des gens qui ne veulent pas accueillir, mais en même temps ils sont élus démocratiquement, donc on ne peut pas forcément les rejeter.
Oui, mais c'est bien là où l'Europe est en train de jouer son destin, c'est-à-dire qu'elle doit inventer une nouvelle forme de solidarité, une nouvelle forme de solidarité envers les migrants, une nouvelle forme de solidarité aussi, c'est-à-dire de compréhension entre les exigences des différents pays. La France fait preuve aujourd'hui d'exigences fortes, mais en même temps ces dernières années, elle a quand même laissé l'Allemagne et l'Italie en première ligne et elle s'est dédouanée face à la situation de l'Aquarius. La France aussi s'est dédouanée, a fait comme si le bateau ne passait pas près de ses côtes. Mmh. Je pense que la position du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez disant avant le sommet « nous allons faire preuve de solidarité avec l'Allemagne », c'est-à-dire on va essayer de se comprendre et on va essayer de se comprendre pour défendre une ligne européenne qui soit une ligne européenne de solutions humaines, est une position intéressante parce qu'il ne s'agit pas de faire la leçon aux uns et aux autres en expliquant que des pays ont des positions inacceptables et que des voies européennes vaudraient mieux que d'autres. Il faut créer un certain nombre de solidarités qui prennent en compte les besoins et les exigences légitimes de tous les pays pour avoir une solution, solidaire envers les migrants.
Vous l'imaginez possible quand on voit Varsovie, même avant de commencer les discussions, dire « bah non, mais nous, c'est fait, on n'accueillera plus de migrants ». Est-ce que c'est possible, finalement, aujourd'hui, de faire entendre raison ?
Il faudra que Angela Merkel joue tout son rôle, il faudra que Pedro Sanchez s'impose, il faudra surtout qu'Emmanuel Macron ne se contente pas de petites victoires symboliques et de poignées de main, mais qu'il fasse vraiment preuve s'il en est capable, et apparemment, c'est ce qu'il souhaite de leadership européen.
Yannick Halimi. C'est possible pour vous de faire entendre...
Moi, je pense que qu'on est dans une passe extrêmement difficile, voire tragique.
Hein. Donc les mots d'Angela Merkel, l'Europe y joue son destin.
Oui, tout à fait. Par contre, l'analyse qu'on peut faire ici et là sur les déficiences de l'Europe, bien sûr qu'elle n'est pas parfaite, mais tout ce qu'on on décline depuis tout à l'heure sur le sujet qui est devenu central, qui est l'immigration, c'est quand même d'abord dû les problèmes que l'on décrit, et notamment la poussée des populismes, c'est notamment dû à des décisions nationales. Mmh. Ce n'est pas des décisions européenne. Si la France n'a accepté que X migrants, c'est parce que l'exécutif français, la France n'a accepté que 1000 migrants. Mmh. Enfin, que X migrants. L'Allemagne, pareil. Et donc, la solution, mais c'est un peu tard, la solution, enfin, moi, j'estime que la solution aurait pu être plus d'Europe, et non pas l'Europe a été déficiente, et il faut la balancer aux accessoires de... au magasin des accessoires de l'histoire. Mmh. Mais, pour répondre à votre question, hic et nunc, je pense que on est à un moment extrêmement tragique, parce que, pour le moment, je ne vois pas d'issue.
Alors, on va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
10 domaines, châteaux et vignobles du Bordelais détenus par des Chinois ont été saisis par la justice. Selon France 2, ces hommes d'affaires et propriétaires auraient détourné l'équivalent de plusieurs dizaines de millions d'euros en Chine, puis investi via des sociétés écrans en France dans l'achat de ces châteaux bordelais. 24 domaines sont visés au total par cette enquête. Un sommet sous tension à Bruxelles autour de la question des migrants. Emmanuel Macron prévient déjà qu'il défendra des solutions européennes et de coopération dans l'Union européenne. L'Europe joue son destin, selon la chancelière allemande Angela Merkel. Le Premier ministre Giuseppe Conte menace, lui, d'un veto si l'Italie n'obtient pas satisfaction pour ses demandes. Défendre le modèle social et républicain, c'est le mot d'ordre de la journée interprofessionnelle CGT et FO. 2900 à 15 000 manifestants à Paris, selon les sources. 3000 à Lyon, une centaine de rassemblements étaient organisés également dans toute la France. Un petit sursaut de mobilisation au dernier jour de la grève unitaire à la SNCF. La direction parle d'un taux de grève de 10,26%, grève vendredi 6 et samedi 7 juillet, mais à l'appel uniquement cette fois de la CGT et de Sudrail. Et puis depuis 20h, depuis la Russie, les footballeurs du Panama sont opposés à la Tunisie, l'Argentine et la Belgique. Avant cela, la Colombie et le Japon se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde.
France Info. Les informés de France Info, on parle donc de ce sommet des migrants, enfin de ce sommet européen, pardon, avec la question des migrants. Jade Zahab, est-ce que d'après vous, il y a des solutions, voilà, aujourd'hui qui sont annoncées? C'est tout simplement d'avancer à deux vitesses. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est la formule magique. C'est comme sur l'euro. Emmanuel Macron dit qu'il faut qu'on avance à deux vitesses sur l'euro. Sur l'accueil des migrants à deux vitesses, est-ce que c'est encore une Union européenne quand on avance à deux vitesses?
Mais alors justement, cette solution à deux vitesses, elle est un peu la solution qui a été apportée par les dirigeants des États depuis une dizaine d'années sur tous les problèmes que l'Union européenne a rencontrés. Et moi, j'ai l'impression que cette crise des immigrations, des migrants, premièrement déjà, c'est pas une crise des migrants, c'est une crise politique.
Alors pour vous, c'est politique, hein, bien sûr, c'est ce qu'on entend depuis quelques jours maintenant, davantage politique.
Bien sûr, parce que si on prend les chiffres, qui sont les chiffres qui ont été communiqués de manière publique, en 2018, on a moins de 45 000, moi j'aime pas le terme de migrants parce qu'il est indifférencié et qui cache des réalités politiques et humaines qui sont désastreuses, mais 45 000 personnes qui arrivent.
37 000.
37 000, voilà, moins de 45 000, donc 37 000 qui arrivent sur les côtes européennes, ça n'est pas un problème migratoire, c'est un problème politique. Et j'entends Emmanuel Macron dire qu'il va falloir qu'on trouve des solutions, que Angela Merkel parle un peu dit qu'en fait l'Europe joue son destin, mais en fait quelle Europe ? C'est-à-dire que l'Europe, elle s'est construite jusqu'ici sur une base idéologique qui était faite de principes, mais l'avènement au pouvoir dans les différents États de pouvoir populiste met en fait au cœur de la question qu'est-ce qu'on veut faire de cette Europe et comment on trouve des solutions. Et sur la question des migrants, par exemple, on parlait des accords de Dublin. Peut-être que la fin des accords de Dublin qui jusqu'ici obligeaient les États à les États frontières en fait à traiter les demandes, peut-être que la fin de ces accords-là peut être une première étape, j'allais dire pragmatique. Mais le problème, il est politique.
Mathieu.
Ça, c'est sûr que les accords de Dublin se révèlent totalement catastrophiques. Tout simplement parce que les accords de Dublin n'ont pas été pensés pour faire face à une crise migratoire telle qu'on l'a connue ces deux ou trois dernières années. Parce que si vous avez tout à fait raison, aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers de gens qui arrivent. Hier, c'est-à-dire il y a un ou deux ans, c'était quelques centaines de milliers de gens qui arrivaient, 2 à 3 millions de gens qui sont arrivés. Or, les accords de Dublin n'étaient pas du tout prévus pour ce type de situation. Donc, la première chose à faire, si on veut être raisonnable, c'est probablement, alors je ne sais pas par quel biais, est-ce qu'on pourrait décréter un moratoire de ces accords de Dublin pour essayer déjà de gérer la situation, non pas tant de ceux, les quelques dizaines de milliers qui arrivent en ce moment, mais de ceux qui sont sur le continent européen. Parce que sur le continent européen, si quelques centaines de milliers de personnes ont obtenu effectivement le droit d'asile, il y en a encore quelques centaines de milliers d'autres qui n'ont pas le droit d'asile. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a des États européens qui essayent de se les repasser. C'est ça la situation dans laquelle on est. Et c'est ça qui explique les crispations entre la France et l'Italie. Puisque les Français disent, attendez, ce sont vos migrants parce qu'ils sont d'abord arrivés en Italie. Et les Italiens disent, oui, mais ensuite, ils sont passés en France. Donc c'est à vous de
vous en occuper. C'est à peu près cette situation
dans laquelle on est aujourd'hui pour simplifier les choses. Et là, effectivement, c'est dû à ces accords de Dublin que, incontestablement, il faut revoir.
Juste sur ce point, mais je suis d'accord avec vous, mais Emmanuel Macron n'essaie pas de renvoyer la patate chaude à l'Italie sur ce registre-là, puisqu'il est aussi pour réformer les accords de Dublin, donc il est parfaitement conscient des dysfonctionnements, et que s'il s'en est pris de façon extrêmement maladroite et contre-productive, on est bien d'accord, mais s'il s'en est pris à l'Italie, c'est parce que l'Italie n'avait pas respecté les accords internationaux. Un pays n'a pas, c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe, qu'un pays refusait qu'un bateau de réfugiés, de migrants. Voilà.
Oui, Mais la France n'a pas accepté non plus.
Non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça. Oui, mais la France était arrivée en numéro 2. C'est pour ça que je vous dis que cette affaire,
cette affaire était mal fabriquée.
Je suis désolé. Allez-y, Mathieu, terminez.
Juste pour répondre, je suis désolé. Toutes les semaines, les autorités françaises essayent de renvoyer des migrants en Italie. Parce que ce sont des gens qui sont, comme on l'a dit, dublinés, donc qui dépendent de ces accords de Dublin. Et au nom de ces accords de Dublin, la France renvoie ces migrants en Italie en disant, comme ils sont arrivés en premier lieu en Italie, et que c'est là où vous les avez contrôlés, c'est à vous de vous en occuper. C'est ça la situation.
Ce sont les règles de droit applicables. La France, comme la plupart des autres pays européens, pardonnez-moi, je termine, sont pour la renégociation des accords de Dublin. Ils sont totalement conscients des effets pervers de ces accords.
Non, mais parfois, c'est un peu facile de dire on va renégocier les accords, mais pendant les mois de la renégociation, on va laisser la situation existante telle qu'elle est, alors qu'on sait que la situation est en train de pourrir. C'est parfois un peu facile pour la France de se réfugier derrière le droit de la mer en disant on ne va pas proposer d'ouvrir un port parce qu'il y a un port italien ou il y a un port d'un autre pays qui est à 10 mètres de plus. Donc le droit de la mer fait que ce n'est pas un port français qui est accueillir. Ce qui est dommage, c'est quand même de... Pourquoi la situation se tend aujourd'hui ?
C'est la question que j'allais vous poser parce que quand on voit en effet sur les chiffres, je rappelle juste, il y a eu, vous l'avez dit, un pic plus d'un million en 2015, 362 000 en 2016, 172 000 en 2017, 37 000 depuis 2018. On sait qu'il y a une tension depuis le début, mais là, pourquoi ça atteint son paroxysme ?
Mais parce qu'il y a les élections européennes l'an prochain. C'est ça qui est dommage sur le fait qu'il y a des tensions aujourd'hui qui montent aussi. D'accord, parce qu'il y a ce symbole de l'Aquarius qui nous a montré que les pays européens étaient plutôt pour jouer leur carte personnelle que d'aller dans un élan de solidarité et que les cartes politiques ont été rebattues en Italie et en Allemagne. Mais il ne faut pas oublier aussi que les élections européennes, c'est un moment où chacun, à l'intérieur de son pays, ce qui est contre-productif par rapport à la nécessité de trouver une solution européenne, chacun à l'intérieur de son pays, doit défendre aussi de manière un peu maximaliste une position qui le mettra dans une position favorable par rapport à ces élections. Et le fait qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, plaide pour une solution européenne est aussi un positionnement positif par rapport à ces élections à venir où il a décidé de cliver le paysage politique français entre les pro-européens et ceux qui seraient contre les solutions européennes.
Mais vous l'avez mentionné, moi je pense que c'est beaucoup plus le fait que justement aujourd'hui dans les différents États de l'Union européenne, on a une très large majorité où les idées populistes et les idées, qui vont à l'encontre d'un certain nombre d'un principe qui jusqu'ici est très, très peu remis en cause, sont de plus en plus importants. Et Emmanuel Macron, il a été élu sur ce projet face à Marine Le Pen d'ouverture à l'Europe, face à ce projet qu'elle a porté justement d'anti-européanisme. Et vous mentionniez Angela Merkel, elle est aussi aujourd'hui, elle, dans une position qui n'est plus du tout favorable à permettre qu'elle puisse porter ses idées. Elle est dans une coalition qui est très largement majoritaire. Donc elle est coincée sur ce sujet-là. Et je crois qu'en fait, c'est un problème qui est fondamental et qui est européen, qui n'est pas migratoire. C'est-à-dire comment faire fonctionner des États qui, alors jusqu'ici, avaient certes des différences, mais arrivaient à trouver des accords. Là, aujourd'hui, on a un certain nombre d'États qui, frontalement, vont à l'encontre, disent, moi, je vais mettre mon veto.
C'est une phrase qu'on entend depuis hier, c'est un problème politique. Notamment, Daniel Cohn-Bendit, par exemple, hier, a dit que ce n'est plus un problème en effet migratoire, c'est politique maintenant. Il faut s'attaquer à ce problème du côté politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu?
Ça, pour répondre à votre question, ça se tend aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est-à-dire, au moment du pic de la crise migratoire, les pays en Europe n'ont pas adopté une attitude commune. Y a des pays qui ont dit non. On les connaît, la Pologne, la Hongrie, on dit non. Ça, ils sont sur la même position à peu près depuis le début. L'Allemagne, elle, s'est montrée extraordinairement généreuse, accueillant, comme je le rappelais tout à l'heure, 60% des migrants. Cette générosité a provoqué ce qu'on sait, les élections et le résultat des élections qu'on connaît en Allemagne, il y a une situation beaucoup plus complexe. L'Italie, elle, s'est retrouvée dans une situation de fait en étant en première zone sur la Méditerranée, à devoir gérer une question migratoire. Et comme ses voisins, et en particulier la France, n'ont rien fait pour l'aider, elle s'est retrouvée dans une situation complexe et ça a donné le résultat qu'on connaît. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la question migratoire est beaucoup moins grave ou intense qu'elle ne l'était il y a 2 ans. C'est ça le paradoxe. Mais on se retrouve avec des politiques qui sont issues de ce qui s'est passé il y a 2 ans.
Allez, dans un instant, on va revenir en France pour parler d'actualité sociale, puisque aujourd'hui, c'était le dernier jour de la grève officielle, on va dire, fixée depuis le mois d'avril par les cheminots. On va y revenir dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Et après sa mise en examen, Lafarge-Holcim entend faire appel. La filiale française du cimentier est poursuivie pour complicité de crimes contre l'humanité. Pour maintenir son activité en Syrie, Lafarge a reconnu avoir versé 13 millions d'euros à des groupes armés, dont l'organisation État islamique jusqu'en 2014. La Syrie avec au moins 25 morts aujourd'hui dans la province de Deraa. Les dizaines de raids aériens imputés à la Russie ont frappé les territoires rebelles dans le sud du pays. Aujourd'hui, cette région de la Syrie a connu sa journée la plus meurtrière hier depuis le début d'un assaut du régime et de ses alliés. Les 233 réfugiés du Lifeline sont principalement des Somaliens, des Érythréens et des Soudanais. Le constat du ministère de l'Intérieur maltais, alors que ces passagers du navire allemand sont pris en charge depuis hier soir. L'ONG Lifeline assure coopérer avec les autorités. Le bateau n'est toujours pas mis sous séquestre comme le menaçaient pourtant les Maltais. Les futures pensions de réversion pourraient baisser pour certains, augmenter pour d'autres, parole du secrétaire d'État Christophe Castaner en évoquant la réforme des retraites. Une nouvelle déclaration 2 jours après celle du Premier ministre. Édouard Philippe donnait lui l'assurance qu'elle ne serait pas amoindrie. Un drapeau arc-en-ciel flottera samedi prochain à l'Assemblée nationale. Samedi, c'est le jour de la Pride, la marche des fiertés dans les rues de Paris. Et c'est un engagement du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, à destination de la communauté LGBT.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors vous savez, quand on est écolier, collégien et lycéen, il y a ce moment affreux pendant les vacances, vous faites des courses au supermarché et là vous voyez des banderoles avec un enfant ravi portant un cartable et disant « Youpi, c'est la rentrée !» Gros moment de déprime alors que vous êtes encore en maillot de bain. Eh bien Philippe Martinez aujourd'hui nous a mis un petit coup de cafard. Manifestation dans toute la France et le secrétaire national de la CGT a déclaré « C'est la première manifestation de la rentrée de septembre ». Mobilisation ce dernier jour de grève prévu à la SNCF et ça depuis le mois d'avril. Plus longue grève d'histoire de la SNCF pour un résultat décevant côté cheminot puisque la réforme donc de la SNCF a été adoptée, que le front syndical s'est scindé la semaine dernière. Malgré la faible mobilisation et un taux de grévistes ferroviaires autour des 10%, certains continuent le combat et promettent déjà d'autres battages de pavés. On va entendre un manifestant, c'était dans la manifestation justement de Paris. Lui, il était sud cheminot, sud rail cheminot.
Toujours là, toujours déterminé. Après 3 mois, qui aurait cru que les cheminots ils pouvaient tenir l'étape d'après? Bah, c'est de continuer à mettre des actions coup de poing tout l'été, juillet, août. L'essentiel pour nous, c'est de maintenir une pression. C'est le début et c'est pas la fin. Loin de là, c'est vraiment le début du mouvement. Et il va y avoir la jonction avec les retraites. Et je peux vous le dire que les cheminots, ils seront encore dans la bataille. Et la bataille va durer très très longtemps, plus que 3 mois.
Voilà, manifestant donc cet après-midi à Paris. Yannick Halimi, quand le secrétaire de la CGT dit c'est la première manifestation de septembre, ça veut dire que ça peut reprendre à la rentrée?
Non, mais ça va continuer tout l'été, hein, de toute façon. Alors, puisque le mouvement de grève pour Sud et la CGT n'est pas terminé. Donc, officiellement, il pourrait continuer, sauf que le taux, il peut continuer, il doit continuer. Le taux de mobilisation devient infinitésimal, premièrement. Deuxièmement, déjà que l'opinion publique, qu'on pensait pouvoir s'inverser à un moment en la faveur des grévistes sur la base des exemples passés. En fait, les grévistes, ils sont très mal pris, ou leur combat n'était pas légitime. Toujours est-il que l'opinion publique n'était pas été à leur côté, et s'ils continuent la grève avec tout de même des possibilités de nuisance, ils vont pas avoir l'opinion publique derrière eux. Et je pense que le mot d'ordre de grève, je dis pas de quelle façon il va être suivi, va se poursuivre cas à cas de la part de la CGT et de Sud jusqu'aux élections professionnelles de novembre.
De novembre, c'est ça, c'est
en novembre. Comment voulez-vous qu'ils s'arrêtent?
Oui.
Sur la place publique, ils sont obligés. Et en plus, vous avez entendu la personne qui parlait. Ils pensent et ils parient et ils misent encore sur une conjonction de nouvelles luttes.
C'est ça.
Avec la réforme des retraites, alors qu'ils ont quand même fait la démonstration qu'il n'y avait pas de conjonction des luttes et des mécontentements, malgré le coup de main intéressé que leur avait donné, qu'avait donné à la CGT Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise dans son ensemble.
Les syndicalistes se sont mis un peu au rythme de la Startup Nation. On prend jamais de vacances et c'est un rythme effréné. Là, d'opposition à la réforme ferroviaire, clairement, il y a une bataille qui a été perdue, hein, qui est la bataille du mouvement pendant la présentation du texte devant le Parlement, vu que le Parlement a adopté un texte en prenant en compte un nombre extrêmement faible de revendications du mouvement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les c'est faible du mouvement, en tout cas par rapport aux attentes de ceux qui manifestent aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des recompositions syndicales qui sont encore en train de se jouer, et CGT et FO qui manifestent ensemble et qui battent le pavé pour ce barreau d'honneur. Je pense que le point le plus positif pour eux, c'était pas le nombre de manifestants aujourd'hui ni le taux de grévistes, c'était le fait d'avoir cette recomposition dans les alliances et dans les rapports de force qui sont en train de s'imposer. Et en effet, si le mouvement social veut peser davantage ces prochaines années que ces derniers mois, il y a des recompositions et des nouveaux discours à penser et à construire. Et c'est un peu ce qu'on voit tenter de naître aujourd'hui.
Alors, Jadzab, il y a aussi un autre homme qui s'est exprimé, qui n'est pas tellement d'accord avec Philippe Martinez, c'est Pierre Gattaz. Il est président du MEDEF et lui, il a déclaré, avec cette réforme de la SNCF, nous avons gagné le combat des idées. Est-ce que c'est le cas ou pas, d'après vous?
Alors,
est-ce que l'idée de Pierre Gattaz, qu'on sait assez libéral, est-ce que finalement c'est la même aujourd'hui que le gouvernement par rapport à la réforme de la SNCF?
Non, mais je crois pas. Vous savez, Pierre Gattaz, il est dans ses derniers jours au MEDEF. Oui. Il y a une élection. Il est sans doute ces derniers jours à la tête du MEDEF, il est en train de faire le bilan de son action et évidemment que ça ne lui fait pas de mal de dire qu'il a gagné. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit à l'instant sur le fait qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans le mouvement des revendications, c'est qu'il y a une recomposition totale des syndicats. Le message n'a, là-dessus je crois qu'on est tous d'accord, le message n'a que très peu porté dans l'opinion publique. Il y a eu les blocages au moment du baccalauréat, etc. Et donc dans l'opinion publique, le mouvement n'a pas suivi. Effectivement, il y aura une réforme des retraites à la rentrée. C'est dans l'intérêt des syndicats de montrer qu'ils sont sur le front de la défense du modèle social, parce qu'encore une fois, il y a des élections en novembre dans les mouvements professionnels. Donc est-ce que, parce que ça fait depuis un an déjà que ça dure, on nous avait dit la même chose au moment des ordonnances sur le code du travail à l'été dernier, puis ça n'avait pas fonctionné, puis Jean-Luc Mélenchon s'était mêlé de l'histoire en septembre dernier en disant il faut que vous vous mettiez dans le mouvement, et en fait ça n'a pas fonctionné. Donc bon, ça me semble très, très peu pragmatique et très orienté vers un agenda qui concerne à la fois soit les syndicats dans leur agenda personnel ou les mouvements politiques. Dans la société, j'ai du mal à voir le fil directeur.
Mathieu Aron, ils ont beaucoup perdu ou pas les syndicats dans ce combat qui pour eux était essentiel, hein, le combat sur la SNCF?
Alors ça dépend lesquels. Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Ça dépend lesquels. Ce qui est sûr, c'est que les Français ne se sont pas mobilisés pour la SNCF. Dans les premiers jours, il y a eu quelques maladresses du gouvernement.
Tout à fait, oui.
Qui a commencé par pointer du doigt les cheminots, en leur disant « c'est de votre faute, c'est de votre faute ». Et là, les Français se sont dit, attendez, cette question, c'est pas de la faute des cheminots. Et je crois qu'au gouvernement, ils ont très vite compris, donc ils ont changé de stratégie. Le discours est devenu beaucoup plus technique, et on savait après qu'il y avait un point de levier, que ce point de levier, c'était la dette.
La dette, exactement.
Puisque les syndicats réformistes avaient dit, grosso modo, je simplifie beaucoup, mais avaient dit, si vous prenez en charge la question de la dette, nous, on n'ira pas plus loin. C'est à peu près ce qui s'est passé. Maintenant, ça ne préjuge pas de ce qu'il peut se passer demain.
Ouais.
Puisque si les Français se sont intéressés mais pas mobilisés vis-à-vis de la SNCF, je pense que quand on attaquera la question des retraites, c'est tout autre chose.
C'est un autre, en effet, à notre niveau. Voilà. Et on se rappelle toujours de 1995, où là, c'était un mélange de tout et ça avait été un peu plus compliqué. Allez, dans un instant, on parlera de Jean-Louis Borloo, qui a fait son petit retour aujourd'hui, pas d'une manière très sympathique pour le gouvernement. On parlera également de la Constitution. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Défense et illustration de la langue française aujourd'hui, de Michel Serres et Michel Polaco, avec France Info. Un livre manifeste qui revisite les différentes facettes du français à l'heure de l'invasion de l'anglais. Des saveurs régionales d'Oc et Doyle, en passant par la querelle sur la féminisation de la langue, l'origine des noms propres ou des proverbes, une langue bien vivante à redécouvrir avec Michel Serres et Michel Polaco. Défense et illustration de la langue française aujourd'hui, un livre France Info. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore du beau temps demain, du soleil quasiment partout. Il faudra composer avec la grisaille le matin au sud de la Garonne, mais on n'en parlera plus l'après-midi. Pareil près de la Manche. L'après-midi, quelques passages nuageux sans conséquence entre le nord-est, la région parisienne, le centre-val de Loire et l'intérieur de la Bretagne, poussé par le vent de nord-est encore sensible. On aura des nuages aussi en montagne. Il pourrait d'ailleurs donner quelques averses, voire un orage sur les Pyrénées, sur les Alpes. Des orages parfois forts pour l'est de la chaîne pyrénéenne. Il fera déjà 15 à 20 degrés le matin, l'après-midi 23 degrés à Caen, 27 à Lille, 29 à Strasbourg, 30 degrés à Paris, Lyon et Marseille, 32 à Nantes, Nevers, Cognac et Agen. La chaleur va s'accentuer pour le week-end. La journée la plus chaude sera celle de dimanche, avec le matin 18 à 21 degrés entre le sud-ouest, les Pays de la Loire, le centre et le centre-est, et 34 à 38 degrés l'après-midi.
France Info. De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Ils n'avaient pas défilé ensemble depuis 2 ans, c'était contre la loi travail. FO et la CGT ont battu le pavé ensemble ce jeudi. Cette fois, pour défendre le modèle social et républicain. Les deux syndicats qui n'ont pas réussi pour autant à mobiliser largement. 15 000 manifestants à Paris, d'après la CGT. 5 fois moins, selon la police. Salah Abdeslam a parlé aujourd'hui devant le juge d'instruction. Le seul survivant des commandos djihadiste du 13 novembre à Paris et Saint-Denis a pour la première fois justifié les attaques terroristes. Julien Pasqualini.
Oui, Salah Abdeslam a fait une déclaration spontanée d'ordre général à connotation religieuse et politique. C'est ce qu'indique une source proche du dossier à France Info. Nos confrères de RTL donnent ce soir le détail de cette déclaration. Salah Abdeslam a d'abord interpellé Emmanuel Macron, critiquant, je cite, sa soif de puissance et de renommée qui, selon lui, appelle à faire couler le sang des musulmans. La sécurité ne régnera pas sur notre territoire tant que cela continuera, ajoute le terroriste. Et toujours selon RTL, Salah Abdeslam s'est ensuite adressé aux victimes du 13 novembre pour justifier l'attentat. « Nous ne vous attaquons pas parce que vous mangez du porc, vous buvez du vin ou vous écoutez de la musique, mais les musulmans se défendent contre ceux qui les attaquent. Mettez votre colère de côté, poursuit Salah Abdeslam, et raisonnez quelques instants, vous ne subissez que les erreurs de vos dirigeants. » Voilà donc cette déclaration de Salah Abdeslam, c'est la 7e fois qu'il était convoqué dans le bureau du juge, et c'est donc la première fois qu'il a donné ses explications sur les attentats du 13 novembre.
Julien Pasqualini, merci. Sommet sous haute tension sur la question migratoire à Bruxelles. L'Italie bloque ce soir l'adoption d'un texte commun en attendant d'obtenir satisfaction sur ses exigences dans ce dossier migratoire. Plusieurs propositions sont sur la table, comme celle encore très floue de plateformes de débarquement hors d'Europe. Le sommet se poursuit demain. Lafarge mise en examen pour complicité complicité de crimes contre l'humanité. Le cimentier français est accusé d'avoir financé des groupes djihadistes en Syrie, dont l'organisation État islamique, pour maintenir son activité en pleine guerre. Ils sont bloqués depuis 5 jours dans une grotte inondée dans le nord de la Thaïlande. Des centaines de personnes sont à pied d'œuvre, aidées par des militaires américains et des plongeurs britanniques, pour tenter de sauver 12 enfants et leur entraîneur de football. Le foot encore, et la Colombie et le Japon qualifiés pour les 8e de finale du mondial. Le Sénégal battu par la Colombie 1-0. Le Japon défait par la Pologne sur le même score. L'Angleterre et la Belgique déjà qualifiées s'affrontent ce soir. Il y a 0-0 entre les deux équipes. Même score de parité, 0 partout entre Panama et Tunisie. Les matchs ont démarré il y a une demi-heure. Et puis Delacroix plébiscité devant le succès de l'exposition sur l'œuvre du peintre après 1830. La direction du Louvre a instauré 11 nocturnes gratuites pendant le mois de juillet à Paris. Il est 20h33, les informés, la suite.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h. Non, mais je dis Calimi. Non, mais je sais qu'il y a le football, mais tout de même, des citations comme ça. Je sais qu'on est un peu au stade. Donc là, nous sommes là jusqu'à 21h, en tout cas, sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, sur le canal 27 de TNT. Et donc, vous l'avez entendu, ils aiment faire la hola, hein, dans le grand stade de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Agathe Cagé de Compass Label, également Mathieu Aron de l'Obs, Jade Zahab du Parlement des étudiants et Jeannie Calimi du Parisien. Aujourd'hui, en France. Alors, je sais que l'on a tendance à dire que la classe politique n'est plus au niveau, mais c'est totalement faux. Sur certains points, même, on progresse. Par exemple, sur l'utilisation de la métaphore. On part d'assez loin, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, en 2015, je vais vous le citer, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est ce qu'il a déclaré, c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Voilà. Ou Nicolas Sarkozy, en 2016, ce n'est pas à passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Bon, alors aujourd'hui, Jean-Louis Barlot, c'est un peu plus clair, au cours d'une réunion à Valenciennes, il s'en est pris à la politique du président de la République en ces termes. Mon sentiment, c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité. En d'autres termes, il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles. Bon, voilà. Une attaque en règle de la politique actuelle est assez mal perçue par le gouvernement. On écoute le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner.
Je ne le savais pas, critique gastronomique. Ce que je sais, il était à Valenciennes. Mmh. Il est élu la première fois, je crois, en 1989. Ceux qui sont en responsabilité depuis 30 ans, sont-ils les mieux placés pour nous expliquer ce que finalement ils n'ont pas fait et que nous devrions faire?
Voilà, donc ça c'est Christophe Castaner ce matin sur LCI. Agathe Cagé dans l'après-midi, il y a Jean-Louis Borloo qui a fait un timide rétropédalage. Mais quand même, on sent que derrière, il y a un homme blessé par son plan banlieue, en fait, qui a été abandonné.
Oui, totalement. Moi, j'aimais bien aussi comme métaphore politique, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Oui. Hein. Et là, c'était pas flou du tout. Hein, la prise de position de Jean-Louis Borloo, il y a eu un travail incroyable. On peut être d'accord ou pas sur le fond. Il y a eu un travail incroyable qui l'a conduit en mobilisant des acteurs des villes, en mobilisant des acteurs du monde associatif pour remettre un rapport. Il était reçu aux grandes pompes par le chef de l'État. Déjà, à ce moment-là, il avait été à la limite de l'humiliation en étant qualifié de vieil homme blanc qui avait des choses à dire, mais pas trop.
Et finalement, Emmanuel Macron se mettait dans le...
Oui,
les deux hommes blancs.
Hein. Inclué, mais quand même. Et là, aujourd'hui, on a Christophe Castaner qui est en train de renvoyer Jean-Louis Borloo à une expérience politique à l'ancienne. Il a sans doute pas regardé quand a commencé Gérard Collomb sa carrière politique à Lyon ou d'autres membres du gouvernement, mais ça avait absolument rien à voir avec le sujet. Le sujet, c'est qu'on a une personnalité à qui on a commandé un rapport avec des mesures intéressantes. Le tout a été enterré et cette personnalité peut s'interroger sur ce que ça veut dire aussi en termes de conduite sociale, d'une politique sociale par ce gouvernement. Et en effet, Jean-Louis Borloo a un point de vue qui n'est pas inintéressant sur le fait que la politique sociale annoncée du ruissellement ne porte sans doute pas encore totalement ses fruits.
Oui, je disais,
Non, premièrement, il faut rassurer Jean-Louis Borloo. Je pense que pour faire, les nouilles ont besoin du gratin autant que le gratin a besoin des nouilles.
C'est ce qu'on espère. On ne sait pas qui sont les nouilles, hein, d'ailleurs, dans l'histoire.
C'est pas gentil pour les nouilles. Ouais, hein.
Premièrement, je n'opposerai pas de manière aussi manichéenne c'est ce que lui appelle les élites et puis le reste des Français. Moi, j'avoue que cette polémique me semble, alors soit inintéressante, soit pour le coup, ça donne beaucoup d'importance à Jean-Louis Borloo. Il est aujourd'hui un citoyen. Il a fait un rapport. Je me mets à sa place. Effectivement, ça ne doit pas être facile.
La phrase est quand même dure. C'est le vieux monde des solidarités contre le jeune monde des abandons. Il est quand même, la phrase
bien
est
sûr, mais c'est alors il fait une déclaration qui est militante et il est sans doute en désaccord avec la politique qui a été mise en œuvre depuis bientôt un an par le gouvernement d'Édouard Philippe. Il était, lui, dans des gouvernements qui ont fait des politiques sociales et économiques assez similaires à ce qui a été fait. Donc moi, honnêtement, je mets ça sur le compte d'un homme qui est très vexé parce que son rapport n'a pas été retenu. Il a un avis de citoyen qu'il faut évidemment prendre en compte, mais à mon sens, il ne faut pas lui accorder plus d'importance que cela.
Jeanine Calimi.
Moi, je trouve qu'on ne devrait pas traiter, M. Castaner ne devrait pas traiter effectivement un homme comme Jean-Louis Borloo, comme il l'a fait. On peut penser ce qu'on veut de Jean-Louis Borloo. Peut-être y a-t-il de la frustration dans le fait que son rapport, je ne pense pas je peux me tromper, qu'il lui ait été commandé par Emmanuel Macron. Hein. C'était une initiative des maires. Mais ça, c'est un détail. Encore une fois, c'est un homme d'État. Alors, il a été un grand ministre des villes, même si ça n'a pas réglé le problème. Mais enfin, il y a quand même certains quartiers, certaines villes qui ont bénéficié d'améliorations grâce à la Vista. Et puis Valenciennes est de Monsieur Borloo, et Valenciennes est un exemple de réussite, je trouve, excellent. Cela dit, Jean-Louis Borloo, quand il parle des vieilles solidarités d'antan et du vieux monde, c'est quoi Du 19e siècle, la société rurale? Parce que il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quand il était ministre, justement, il prenait acte déjà du fait que le tissu social et toutes les solidarités, qu'elles soient familiales ou de classe, enfin j'en sais rien, étaient totalement décousues.
Je pense qu'en fait, je crois qu'il a fait un parallèle par rapport au Nouveau Monde, comme a dit Emmanuel Macron, que nous sommes dans le Nouveau Monde, il y a l'ancien monde, je crois que c'est ça. Hein.
Je termine quand même, encore une fois, le gouvernement, par la personne de Christophe Castaner, a tout de même intérêt à écouter quand même ces refrains qui viennent aussi bien de M. Borloo que de son aile gauche et que même d'une partie de la droite, qui est de dire... Pour faire court, vous faites une politique un peu trop favorable aux entreprises, à la droite. C'est quand même un signal supplémentaire dans ce rappel à l'ordre social, si je puis dire.
Je vois, Jadzab, ne pas être d'accord.
Oui, non, je suis tout à fait en désaccord avec ce que vous venez de dire.
Mais sur
le fond, Jean-Louis Borloo a fait son temps en politique. Sans doute que ce qu'il a fait à Valenciennes est très très bien. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui, si ce n'est d'être un ancien élu, il se permet de donner des formes de leçons. Il a un avis et en tant que citoyen, son avis compte.
Ben voilà.
Ensuite, je ne vois pas pourquoi est-ce que le gouvernement devrait automatiquement retenir les propositions de son rapport, voire même le traiter de manière... c'est un mot d'humour de Christophe Castaner qui n'est sans doute...
Qui n'a fait rire que lui, sans doute.
Mais ça dit quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'il faut que l'ancien monde, permettez-moi l'expression, je déteste l'utiliser d'habitude, laisse faire ceux qui aujourd'hui sont aux responsabilités, parce que sans doute que Jean-Louis Borloo, lorsque lui, il était aux responsabilités, il aurait fait exactement la même chose, c'est-à-dire de commander des rapports et de ne suivre que ce qui l'arrange. Voilà, là-dessus, ce n'est que la reproduction d'un schéma.
Mathieu, on va y revenir juste dans un instant, parce qu'on va tiner comme ça. Après, on sera pile à l'heure. Vous savez, ici à France Info, vous savez, vous connaissez, on est des chefs de gare un petit peu. Donc, on va y revenir dans un instant à cette polémique autour de Jean-Louis Borloo. L'info à 20h40, c'est Stéphane Milhomme.
Salah Abdeslam a fait une déclaration à connotation religieuse et politique devant les juges. Aujourd'hui, le dernier survivant des attentats terroristes du 13 novembre 2015 a fait une déclaration spontanée d'ordre général à connotation donc religieuse et politique, selon une source proche du dossier contactée par France Info. Selon les informations de RTL, Salah Abdeslam a justifié les attaques terroristes après avoir dit s'en remettre à Allah. Les dirigeants européens ne sont pas parvenus à approuver la déclaration finale. Bilan du sommet de Bruxelles ce soir, où il était question de défense et du commerce. Un pays l'a bloqué. C'est un porte-parole du Conseil européen qui le déclare en ces termes, sans citer le pays. On sait que les États européens se divisent depuis ces dernières semaines sur la question de l'accueil des réfugiés. Donald Trump et Vladimir Poutine tiendront leur premier sommet le 16 juillet prochain à Helsinki. La date et le lieu sont donc précisés aujourd'hui. Le but des discussions est bien de tenter de réchauffer les relations tendues entre les deux pays. Annulée la mise en examen du milliardaire russe Kerimov. Il était poursuivi en France pour blanchiment de fraude fiscale. Cet homme d'affaires était mis en examen depuis la fin d'année dernière après son arrestation à Nice, ce qui avait provoqué la colère du pouvoir russe. Jamais sans mon smartphone, ou presque. 20% des étudiants passent plus de 6 heures par jour devant leur téléphone portable. Selon l'étude Opinionway publiée pour une mutuelle, la SMEREP, elle note que ce n'est pas sans conséquence sur leur concentration, leurs relations sociales et également leur sommeil.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Jean-Mathieu Pernin.
Et oui, Jeanne Camille, vous êtes comme les étudiants, vous voyez exactement 6h, allez, les informés de France Info. Mon sentiment, c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons. Il faut faire attention à ne pas séparer le gratin et les nouilles. C'est signé Jean-Louis Borloo, cette phrase. Mathieu Aron, c'est quoi? Alors, c'est un homme, d'après vous, un homme amer par rapport à son rapport, ou clairement quelqu'un qui a fait un constat que la politique menée par le gouvernement aujourd'hui n'est pas pour les plus défavorisés?
Je crois déjà qu'il faudrait peut-être que les gens du nouveau monde se disent qu'un jour, il est possible que les gens de l'ancien monde se réveillent. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que dans cette affaire, et on l'a tous constaté, et c'était l'intégralité de tous les commentaires au lendemain de la présentation ou de la fausse présentation du plan banlieue, Jean-Louis Borloo a été humilié. Jean-Louis Borloo a été humilié, reste à savoir pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron a choisi d'agir comme ça, ça lui appartient. Mais Jean-Louis Borloo a été humilié. On lui a même fait croire qu'on prenait en compte son plan banlieue pour que, au dernier moment, à la dernière minute, quasiment à la dernière seconde, il s'aperçoive dans une réunion publique que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, eh bien voilà, il dit ce qu'il a à dire au-delà de son cas personnel. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que qu'est-ce que représente Borloo ? Pour faire simple, Borloo représente aujourd'hui ce qu'on peut appeler le centre droit.
C'est ça. Ouais.
Voilà, qui n'est pas très éloigné souvent du centre gauche. Ce que ça montre aussi, c'est une césure qui est en train de s'opérer, que ce soit sur la question des migrations, que ce soit sur la question des aides sociales, parce que c'est ce que dit en réalité Jean-Louis Borloo. De quoi il parle? Il parle des aides sociales, ben non, et de tout le discours sur les aides sociales.
C'est ça qu'on a eu la semaine dernière.
Donc sur ces deux questions assez centrales, Emmanuel Macron est en train de se séparer du centre. Et ça, il y a un vrai calcul politique qui est en train de se jouer là, Et ce n'est que le début. À mon avis, ce n'est que le début de
tout. Mathieu, François Bayrou était interviewé donc du MoDem. Lui a dit Jean-Louis Borloo va peut-être un peu trop loin, mais ce n'est pas faux. Il faut faire attention au social tout de même. Donc on voit en effet Agathe Cagé. Alors je rappelle juste, Emmanuel Macron a dit qu'il ferait des annonces sur la banlieue en juillet, tout en expliquant qu'il n'y aura pas de plan banlieue. Donc est-ce que ça peut avoir un impact cette phrase, ou ça s'arrêtera ce soir? Voilà la phrase de Jean-Louis Borloo. À votre avis, son influence?
La phrase en elle-même n'aura pas un impact direct. La phrase s'inscrit quand même dans un ensemble de phrases. On a parlé du pognon de dingue comme une affirmation d'une sorte de politique à l'égard des aides sociales, affirmant d'abord l'inefficacité avant de penser leur utilité. On a cette phrase qui renvoie Jean-Louis Borloo à une forme de frustration personnelle, alors même qu'il a une vision critique de la politique social que conduit le gouvernement, qui est perçu comme ne prendre non pas du tout en compte les moins favorisés. On a quand même un décrochage aujourd'hui dans l'opinion d'Emmanuel Macron qui devient un peu marqué par le fait qu'il se coupe d'une certaine manière d'une base de Français qui est de plus en plus large. Et le petit décrochage qu'on observe aujourd'hui dans l'opinion sera sans doute nourri par cette analyse d'un Jean-Louis Borloo et par le fait qu'il est rejeté à une frustration à son âge directement par Jean-Christophe Castaner. Alors on peut dire que Castaner a fait de l'humour en voyant Jean-Louis Borloo à ses 30 ans, comme on peut dire qu'Emmanuel Macron a fait l'humour en présentant Jean-Luc Le Drian comme un mafieux, mais à un moment donné, je pense qu'il faut peut-être faire de la politique sérieusement, arrêter de faire des petites blagues pour se faire rire dans l'entre-soi parisien.
Non, juste deux points. Moi, pour réagir à ce que disait Mathieu Aron, je ne pense pas que le centre-droit suscite génère une scission de la majorité présidentielle, si tant est qu'il s'y trouve déjà. Enfin, qui est une force centrifuge.
Peut-être une scission intellectuelle, peut-être.
Écoutez, pour aller où? Pour aller chez Laurent Wauquiez? Pour aller où?
Bon, non, je ne sais pas. Politique, mais intellectuelle.
Non, mais intellectuelle, le centre droit, je veux dire, si Emmanuel. Alors, moi, je pense que s'il y a
Yannick, mais si Emmanuel Macron a quand même été élu fondamentalement par d'abord par 24% de Français qui ont voté pour lui au premier tour. Dans ces 24%, ils étaient où, ces 24% de gens? C'était des gens qui étaient quand même essentiellement dans ce qu'on en appelle une partie du Parti Socialiste, des gens qui étaient proches du centre-gauche, et l'autre partie, elle était au centre-droit. Il se trouve que ces prises de position, particulièrement ces dernières semaines, choquent une partie de cet électorat. Et c'est ce que manifestent, effectivement, comme vous le rappeliez, les sondages d'opinion. C'est tout ce que je voulais dire. Après, comment ça se traduira dans 4 ans dans les urnes, je n'en sais rien.
Mais je ne vous parle même pas d'il y a 4 ans pour faire le lien avec la mobilisation sociale. Je veux dire par là qu'effectivement, il y a une sorte de carence par rapport à un électorat qu'il a élu à la présidentielle ou aux législatives, une carence dans le discours et dans la vision sur laquelle s'est vendu Emmanuel Macron, qui était et de droite et de gauche, et qu'effectivement, il est plutôt et de droite en ce moment, et je ne pense pas que ce soit le courant de pensée que représente Jean-Louis Borloo, qu'il représentait au centre droit, qui soit le plus fragilisé et le plus inquiet par la politique menée par Emmanuel Macron, c'est tout ce que je voulais dire. En revanche, on l'a dit, on le répète, il y a ce centre-gauche, voire cette partie de l'échiquier que le Parti Socialiste, pour le moment, a libéré, qui pourrait reconquérir à terme, qui, là, pose une vraie question pour Emmanuel Macron. Et je pense que le grand discours, le discours du Congrès...
Oui, donc le 9 juillet prochain.
Qui aura lieu le 9 juillet, je pense que là, Emmanuel Macron, qui a fait beaucoup de ratages, volontaires ou pas, ces dernières semaines, je suis d'accord avec vous, le pognon, les aides sociales, le grand discours de la mutualité qui devait être fondateur, justement, auquel plus personne n'a compris.
C'était très long.
C'était occulté par le pognon. Le pognon, là, vous savez, ouais, de la vidéo. Non, je veux dire, je pense qu'Emmanuel Macron est conscient de tout ça, en tout cas son entourage, et que il devrait apporter une réponse entre guillemets sociale lors de son discours du Congrès, avec le développement,
le 9 juillet, en tout cas,
pour les plus démunis et plus.
Jadzia, juste pour terminer, pour vous, il n'y a pas de péril en demeure, même si en effet intellectuellement, ça veut dire qu'aujourd'hui le centre droit peut s'inquiéter. En effet, peut-être, quand on voit qu'Emmanuel Macron gagne davantage à droite aujourd'hui.
Oui, mais là, on est encore, je pense, pour Emmanuel Macron dans sa première année de positionnement, de réussir en fait à satisfaire à la fois les deux électorats, et puis de marcher sur une jambe gauche et sur une jambe droite. J'attends de voir le contenu du texte des retraites, pardon, qui arrivera à l'automne, pour qu'on puisse enfin voir quel est le véritable fond idéologique. Ensuite, est-ce que j'ai l'impression que c'est une façon de voir le monde politique qui est beaucoup en lien avec l'ancien monde, justement. Est-ce que forcément, quand on met en œuvre une réforme, on est en train de parler à un électorat? Moi, alors peut-être suis-je naïf et certains diront que c'est lié à mon âge. J'espère en tout cas que quand un gouvernement ou quand un élu met en place une réforme, il n'est pas forcément toujours en train de calculer quel est l'électorat qui est derrière. Donc accordons-lui le crédit de dire voilà, il a été élu par une base de Français qui était à la fois du Parti Socialiste quand il existait encore et des autres partis, disons, plutôt modérés. Laissons le crédit au gouvernement de mettre en œuvre des politiques, pas nécessairement en pensant à des réélections.
Je pense que le nouveau monde devrait se préoccuper du fait qu'il va devenir peut-être un peu plus rapidement qu'il espérait ancien monde lui-même, parce qu'à force de se qualifier de nouveau monde, il faut aussi regarder comment il gouverne quand même beaucoup à l'ancienne. Peut-être que Emmanuel Macron ne gouverne pas en se demandant quel électorat il touche. En tout cas, on voit qu'il gouverne en se demandant s'il répond bien à une partie des donateurs de sa campagne présidentielle et des plus favorisés qui l'ont porté au pouvoir dans un certain nombre de mesures fiscales, notamment qu'il a prises ces derniers mois.
Mathieu Aron.
Et il me semble, moi, que quand il laisse volontairement diffuser cette vidéo où il parle de pognon de dingue, eh bien, il fait de la vieille politique. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'adresse là exclusivement à un électorat. Et il envoie un message exclusivement politique. C'est d'ailleurs intéressant de voir, mais ça c'est classique chez les politiques, mais lui le manie particulièrement, je trouve, le décalage qu'il y a parfois entre les réformes et les propos d'Emmanuel Macron, qui envoie des signes politiques assez percutants. Et là, il fait vraiment que de la vieille politique, si j'ose dire.
Allez, on va dans un instant. Le mot a été prononcé tout à l'heure par vous, Jeannick Halimi. C'est le mot constitution, congrès, etc. Voilà, on va parler de la constitution dans un instant. Les députés réfléchissent et ils ont beaucoup d'idées. On va voir ça dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Les dirigeants européens ne sont pas parvenus à approuver la déclaration finale ce soir. Bilan du sommet de Bruxelles où il était question de défense et du commerce. Un pays l'a bloqué. C'est un porte-parole du Conseil européen qui le déclare, sans citer le pays. On sait que les États européens se divisent depuis ces dernières semaines sur la question de l'accueil des réfugiés sur le continent. Salah Abdeslam fait une déclaration à connotation religieuse et politique devant les juges. Le dernier survivant des attentats du 13 novembre 2015 a fait une déclaration spontanée d'ordre général aujourd'hui, selon une source proche du dossier contactée par France Info et selon les informations de RTL, Abdeslam a justifié les attaques terroristes après avoir dit s'en remettre à Allah. La filiale française du cimentier Lafarge, désormais poursuivie pour complicité de crimes contre l'humanité, l'entreprise entend d'ailleurs faire appel. Lafarge a reconnu avoir versé 13 millions d'euros à des groupes armés, dont l'organisation État islamique, pour continuer à faire tourner son usine en Syrie en pleine guerre jusqu'en 2014. Le Conseil national de l'Ordre des médecins se pourvoit en cassation pour contester l'annulation de la radiation du professeur Henri Joyeux. Il y a 2 jours, ce professeur était blanchi en appel après ses positions soutenues par 2 pétitions contre les vaccins et la politique de la vaccination. Et puis, depuis 20h, depuis la Russie, les footballeurs du Panama sont en train de rencontrer la Tunisie. Le Panama qui mène 1-0 et l'Angleterre face à la Belgique. Les 2 équipes en sont pour l'instant à 0 partout et c'est l'habitant.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on les disait cuits, laminés, ravagés au bord du précipice, à ramasser la petite cuillère, s'il y a encore des petites cuillères vu l'état des finances de la France. Mais le député a repris du poil de la bête, ce qu'il met en forme, l'examen du projet de loi constitutionnelle. Bon, alors c'est chacun son petit truc, hein. Mardi se sont ouverts les travaux concernant cette réforme et au total, il y a 1378 amendements qui ont été déposés, soit plus du double que lors de la révision constitutionnelle de 2008. Le rapporteur général s'est même dit, j'aime bien le terme, inquiet de la fertilité de l'imagination des parlementaires. Laïcité, écriture inclusive, passage de 5 à 8 ans pour le mandat présidentiel. À la base, on devait parler accélération de la procédure parlementaire ou la suppression de la Cour de justice de la République, réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis tout s'est emballé. Mardi, c'est un amendement très symbolique qui a été adopté en commission, à savoir la suppression du mot « race » de la Constitution. Aujourd'hui, en commission, c'est la protection de l'environnement qui a été inscrite dans l'article 1. Agathe Cagé-Esqueu, là, avec ces 2 amendements, la suppression du mot « race » et la protection de l'environnement, on fait du symbole et c'est important justement de faire du symbole quand on parle de changement de constitution.
Quand on parle de changement de constitution, ça peut être important de faire du symbole. Là, je pense qu'on est vraiment sur du symbolique très, très limité. On avait déjà la Charte de l'environnement dans la Constitution. Ouais. Donc, les choses existaient déjà. Il faut faire attention quand même à notre Constitution, hein. On a quand même connu en France, et on connaît encore aujourd'hui, un usage de la loi à des fins symboliques de réaction médiatique. Et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a une loi de plus en plus molle qu'on n'applique pas. Et les Français n'attendent pas ça. Attention à ce que notre Constitution ne devienne pas un petit terrain de jeu pour faire connaître son nom un amendement parlementaire sans qu'on ait un véritable impact. La Constitution, c'est quand même un texte fondamental, c'est ce qui nous protège. C'est le texte devant lequel le Conseil constitutionnel, par rapport auquel le Conseil constitutionnel va observer la constitutionnalité des lois. On ne peut pas tout faire avec cette Constitution, on ne peut pas adopter des bouts de phrases, réagir sur un verbe pour faire un coup politique.
Oui, c'est ça. Oui.
Faisons des coups politiques sur autre chose, sur la Constitution, on parle quand même quelque chose d'un peu sérieux.
C'est des travaux qui vont être très longs, mais on voit en effet qu'au départ, on parle seulement d'une fronde de certains parlementaires, parce que c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de parlementaires, hein, c'est-à-dire au final avec cette Constitution, moins de sénateurs, moins de députés. Et là, il y a comme un emballement. Pourquoi finalement cet emballement comme ça pour, de la part des parlementaires?
Mais parce que ça a été dit à l'instant, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que amender la Constitution, ça n'a rien à voir avec adopter un texte de loi, j'allais dire, ordinaire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La Constitution, c'est pas une liste de courses. Donc je comprends évidemment qu'il y a du symbole, mais quand effectivement ça a été dit aussi, la Charte de l'environnement fait partie déjà du bloc de constitutionnalité depuis 2004. La question des races, évidemment, condamner le racisme fait partie aujourd'hui de ce qui revient aux missions de l'État. Mais est-ce que supprimer le mot race va supprimer le racisme? Je n'en suis pas certain. Donc oui, il y a un engouement parce que modifier la Constitution, ça déjà nécessite des dispositions constitutionnelles qui sont très strictes sur les 3/5 du Congrès, sur la validation par l'Assemblée et le Sénat en termes identiques. Donc les 1300 amendements, j'allais dire, j'espère pour la Constitution qu'ils ne seront pas tous adoptés, minorité le soit, parce que le texte constitutionnel, il est notre référence, il n'est pas une loi ordinaire. Donc j'espère que là-dessus, il y aura une forme de mesure et de prise de hauteur sur les sujets qui sont abordés, parce qu'on ne peut pas modifier chaque article. Par exemple, la question de l'écriture inclusive.
Oui, alors il y a un député qui souhaiterait que ça soit en écriture inclusive.
Me semble assez indigne, parce que ça n'est pas le rôle de la Constitution, qui est le texte fondamental en France, d'être, j'allais dire, sujet à une instrumentalisation politique de la sorte.
Vu ce que l'écriture inclusive a provoqué comme polémique, je pense qu'on va repartir une nouvelle fois là-dedans. Mathieu Hamon, est-ce qu'il y a une urgence à réformer aussi cette Constitution? On a vu quand même Emmanuel Macron, dès le début, dès sa prise de fonction, il fallait réformer cette Constitution.
Alors, je vous avoue que je n'ai pas encore exactement compris l'enjeu du débat. Alors, j'entends et je souscris à tout ce qui vient d'être dit, tout à fait d'accord et très bien dit. Mais là, il y avait 4-5 points importants.
C'est ça, exactement. La Cour de justice de la République, des choses là, voilà, réduction des parlementaires.
Réduction du nombre de parlementaires, près d'un tiers quand même.
Exactement, donc
ça,
tout à fait.
C'est pas négligeable. Là, c'est vraiment pas négligeable.
disparition plus ou moins de la Cour de justice de la République, considérant que les politiques n'avaient pas à être jugées différemment des autres Français. Bon, ça, c'est pas non plus négligeable.
Réforme du Conseil supérieur de la magistrature.
C'est peut-être ce qui peut s'avérer le plus important. Si effectivement, il y avait une vraie réforme du Conseil supérieur de la magistrature, parce que la question sous-jacente, c'est celle de l'indépendance du parquet, qui est une vraie question. Mais là, je vous avoue que je ne connais pas ce qui est proposé comme réforme précise du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, on voit que ce sont des points qui ne sont pas négligeables. On voit aussi que l'équilibre global de la Constitution et de nos institutions n'est absolument pas remis en cause par les débats en cours. Après, bon, bah, voilà, il y a tous ces amendements, certains intéressants et d'autres pas loin d'être ridicules.
Mais si, mais Yannick Alimé, mais si, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir parler, mais rapidement, s'il
vous
plaît.
Mais non, mais très rapidement, je veux dire, cette réforme de la Constitution ou des institutions d'ailleurs touche non seulement le cumul des mandats, il y a une dose de proportionnel, il y a tout le travail parlementaire. Donc l'origine de tout ça, c'était redonner de la crédibilité et de l'efficacité au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il se trouve qu'il y a effectivement des débats parce qu'il y a aussi au centre de la réorganisation du travail parlementaire une volonté de limiter le droit d'amendement dont symboles qui fait polémique. Donc ça, c'est sujet à débat. Pour les uns, ça le rend plus efficace. Pour les autres, ça tue le débat politique. Bon, mais fondamentalement, c'est une réforme des institutions qui doit répondre à la poussée de l'antiparlementarisme dont nous avons été témoins, voire les victimes hier, aujourd'hui et peut-être encore plus demain.
Ça devrait en tout cas nous occuper quand même une partie de l'été. Je vous le dis ça, si vous êtes sur la plage, vous allez vous passionner pour cette réforme de la Constitution.
Et
merci.
En automne aussi, Jean-Mathieu.
Mais bien sûr, on se passionnera en automne tout le temps. Merci Agathe Gagé, merci beaucoup Jadzab. La une de l'Obs, Mathieu Aron, cette semaine.
Les migrants et nous, bien entendu, on revient sur cette grande question des migrations et avec toute une série de contributions, donc entre autres celle de Marcel Gauchet et de Christiane Taubira.
Et la une du Parisien aujourd'hui en France, demain.
Jamais l'été n'a été aussi chaud depuis quelques temps.
Très